C'est parti un peu vite parce qu'il manque du temps. Et donc, tant pis pour nous, parce qu'il faut quand même qu'on arrive un jour à la détection de la substance. Et c'est quand même le but. Parce que expliquer pourquoi il y a des blocs, c'est une chose, mais d'un autre côté, c'est quand même intéressant de voir quelles sont les nostalgies qui sont. Ce sont des nostalgies qui ne sont pas métaphysiques à bien regarder, ce sont des nostalgies ontologiques. Vous voyez, l'ontologisme, il faut savoir, pour votre culture générale, qu'est-ce que la différence entre la métaphysique que nous faisons cette année et l'ontologisme. L'ontologisme, c'est une philosophie qui confond le point de vue de la vie et le point de vue de l'être. Par exemple, Descartes, Leibniz, Spinoza, tout ça, ce sont des ontologies. Malebranche et compagnie. Hegel, le grand ontologiste, c'est Hegel. L'ontologiste confond la vie et l'être. Le nouvel âge, New Age, etc., c'est ontologisme pur. L'absolu est dans la vie, donc c'est la vie, ma vie, c'est l'être. Bon, c'est bien. Et si ma vie, c'est d'être en relation avec les gens, l'être, c'est la relation. Enfin, on arrive vraiment à des trucs qui sont complètement aberrants. Mais enfin, c'est ça qui origine toutes les idéologies. Toutes nos opinions viennent d'une espèce de tendance de l'humanité depuis quelques siècles à penser de manière ontologique. Et notre civilisation occidentale, avec nos mots, la civilisation de la structure, des mots et des phrases qui sont formés depuis 7 siècles nous mettent dans l'ontologisme uniquement par le point de vue du langage. À lui tout seul, même si vous n'avez jamais lu Hegel. Vous êtes ontologiste. Et c'est pourquoi il faut reprendre, donc, pas un nouveau langage, mais reprendre chaque mot pour lui donner sa profondeur par rapport au réel. C'est pour ça, vous voyez, comme on insiste ici, ceci est. Jusqu'à ce que ça pilonne et que dans un moment où le trou est fait dans la canalisation, ça va. Toute la flotte boueuse de l'ontologie sort. Pas et c'est pour ça qu'il faut faire ceci. La métaphysique, c'est de regarder l'être pour lui-même. L'être, qu'est-ce que c'est que ce être? C'est indépendamment de la vie. Avec cette difficulté de mon intelligence, c'est embourbé dans les nostalgies qui a toujours tendance à revenir à l'ontologie. Donc c'est important qu'on fasse ça. Parce qu'il faut que si Heidegger pendant 30 ans, 40 ans a cherché le point de vue de l'être et n'y est pas arrivé, c'est justement à cause de ça. Donc, on ne peut pas dire, nous, on est beaucoup plus balèze qu'Heidegger. Hein? Donc on fait ce petit détour parce qu'il est nécessaire. Alors, reprenons. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce premier moment ontologique? C'est-à-dire où notre vie et notre être sont tous les deux sous la dépendance de l'être premier. Actuellement, ma vie n'est pas sous la dépendance de l'être premier. Ma vie ne dépend pas de Dieu. Mais mon être dépend actuellement de l'acte créateur de Dieu. En ce moment, Dieu est en train de faire que j'existe. Mais dans la première cellule, ma vie et l'être étaient dans le même statut. Tout en moi était déterminé par l'acte créateur de Dieu pour l'être et par la vie créatrice de Dieu pour la vie. En ce moment, ma vie n'est pas déterminée par la vie créatrice de Dieu. Hein. La vie paternelle, c'est pas la vie intime du Dieu Père de ma vie qui fait que je vis ce que je vis. Pas du tout. C'est moi qui vis ce que je vis. J'ai une liberté dans l'ordre du don. Quand le Saint-Père fait des discours, il dit « Nous avons l'intelligence, la volonté et la liberté dans l'ordre du don ». Moi, je vous dis toujours, nous avons l'intelligence, la volonté et la mémoire ontologique. Le Saint-Père, il appelle mémoire ontologique liberté dans l'ordre du don. C'est plus joli, les gens comprennent mieux, quelque part. Mais ça revient exactement à la même chose. Bon. Alors, d'accord, voyons donc, qu'est-ce qui s'est passé dans cette origine où l'ontologisme et la métaphysique sont finalement la même chose. C'est l'endroit où on va rejoindre Heidegger. Et à partir d'Heidegger, on va retourner dans la métaphysique. Vous voyez ? C'est un petit peu ce petit détour que je fais pour court-circuiter tous les a priori
qui viennent des idéologies, du langage, de l'Occident, etc., notre éducation, des méthodes pédagogiques, la manière dont on a été éduqué, la manière dont on fonctionne par rapport aux médicaments, à la pharmacie, etc. On en est imbibé. On est imbibé de Nietzsche, on est imbibé de Freud, on est imbibé de Hegel, on est imbibé du positivisme, on est imbibé d'évolutionnisme, on est imbibé de matérialisme dialectique et on est imbibé de Sartre. On est imbibé d'existentialisme. Tous imbibés. On est imbibé par ces idéologies fausses, ces idéologies qui donnent le primat à la négation. Parce qu'ils dépendent tous de Hegel. C'est tous des idéologies athées, et ça je m'en fiche que ce soit des idéologies anti-homme, parce qu'elles veulent exalter chacune une des dimensions de l'homme. Et du coup, elles détruisent l'homme dans son harmonie métaphysique. Et on est tous imbibés par toutes ces idéologies. Regardez quand vous dites, attention, ce gosse ne lui fait pas la remarque, tu vas le traumatiser. Ça c'est Freud. Mais attention, enfin, j'ai bien le droit de prendre de la drogue, hein, un petit peu je sais pas, un petit peu d'acide, je suis libre, quoi, lâche-moi les baskets, hein. Je suis libre, laisse-moi aller au bar avec mes cops. Bon, ça. Bon, là, c'est, etc. Bon, il faut repérer, même si vous avez jamais lu Sartre, on est imbibé de ça. Allons, c'est pareil, il y en a qui sont très forts pour flanquer la négation, il cloue le bec, le type, il peut pas répondre. Qu'est-ce qu'il est intelligent, t'as vu, il a mouché mon professeur de philosophie, lui. Il est plus intelligent que mon professeur de philosophie. Pas du tout, il n'est pas plus intelligent. C'est pas la négation, la force de la critique, hein, voyez, qui fait qu'on est contemplatif. Parce que le contemplatif, l'intelligent, qui est capable de recevoir la réalité, la vérité, de la contempler, de la saisir de l'intérieur, il reçoit quelque chose de positif. Il ne rejette pas. C'est le contraire, c'est le primat de la réalité, le contemplatif, c'est pas le primat de la négation, etc. On en est imbibé. Et il faut le savoir. C'est pour ça qu'on a tellement de mal à faire l'induction. On a fait le jugement d'existence, mais on veut faire l'induction, les mecs. Donc, il faut qu'on arrive à déganguer de ces sept idéologies, cette espèce d'ontologisme qui s'accroche si bien à nous en raison des nostalgies métaphysiques. Vous voyez tout de suite le lien, n'est-ce pas, qu'il y a entre les nostalgies métaphysiques que nous avons tous. Celui qui me dit « j'ai aucune de ces nostalgies métaphysiques », je lui donne un coup de pied aux fesses. C'est pas vrai, quoi. Faut pas rêver. Bon. Ah non, moi je suis très bien, moi je ne fais que du bien, moi je suis contemplatif, moi j'ai la vérité, etc. Bon, alors ça va. Ça m'intéresse pas, c'est pas intéressant, quelqu'un comme ça. Hein? C'est de l'eau plate. Alors, vous avez... Mais oui, métaphysiquement, on vit métaphysiquement. C'est quelqu'un qui est mal dans sa peau qui dit ça. C'est quelqu'un qui est dans son corps, vous comprenez, qui est fondamentalement inscrit dans son corps. Oui, forcément, sa mémoire ontologique bute sur ses limites. C'est clair pour lui. D'où ça vient? D'où ça vient? Bon, alors, je vous rappelle. Entrez. Lui, vraiment, il est en retard, le mec, hein? Ça fait 3 heures qu'on a commencé! Là, il a une soif de la vérité, ça paye, hein? Bon, alors, on continue. Gamètes masculines, gamètes féminines. À l'intérieur de l'œuf, décomposition de la gamète. Vous pouvez vous asseoir. La décomposition des 46 chromosomes. Des 46 chromosomes de l'ovule, n'est-ce pas ? Qui se décompose, il y a une partie génétique qui fout le camp, une partie génétique qui fout le camp, et il ne reste plus que l'équivalent du poids génétique de 23 chromosomes au moment où précipite donc le spermatozoïde. qui lui-même, au moment où il rentre, je vous signale, il n'a que 23 chromosomes, c'est-à-dire la moitié du patrimoine génétique. Alors, au moment où il rentre, l'étincelle se fait. Une espèce d'étincelle. À partir du moment où il rentre, c'est qu'il va y avoir recomposition du phénomène génétique nouveau. Et donc, il va y avoir des morceaux de gènes. Enfin, je vais dire, ça, c'est l'hélicoïdal. Vous savez comment c'est fabriqué, les chromosomes, oui ou non? Donc, il y a ici une partie génétique, une petite partie génétique masculine qui va s'introduire dans une partie entre plusieurs, etc. N'est-ce pas? Ça se fait comme ça. Du moins, c'est le contraire, en fait. C'est le masculin qui vient dans la décomposition féminine. Enfin, bref, c'est un autre problème. Je m'en fiche, vous verrez ça dans vos bouquins de biologie, mais ça, on avait regardé ça il y a 2 ans. À un moment donné, votre mémoire génétique corporelle, elle est la vôtre. C'est ni celle du père, ni celle de la mère. La première cellule est constituée. Et les structures biologiques, spatio-temporelles aussi, sont présentes. On le sait. On a même flanqué le prix Nobel cette année, n'est-ce pas, à celui qui a découvert dans les gènes ceux qui donnent les dimensions et qui y sont présents, spatio-temporelles, dans la mémoire génétique. Donc on sait déjà que biologiquement, il y a une animation. On sait donc s'il y a une animation, l'âme spirituelle, elle est dans la première cellule. Ça, pour moi, c'est clair. C'est un signe. C'est pas une preuve, c'est un signe. Bon, dans la première cellule, j'ai tout de suite la création de l'âme spirituelle qui explique pourquoi c'est selon cette fréquence, si je puis dire, spirituelle, que s'organise le corps et l'individu. Il y a une individuation biologique par le corps, d'accord? Et en même temps, il y a la création de l'âme spirituelle et l'infusion de l'âme spirituelle dans cette première cellule. Et cette âme spirituelle, c'est Dieu qui la donne en même temps qu'il crée l'être. L'être n'étant pas l'âme spirituelle, l'être c'est l'unité substantielle entre l'âme spirituelle et la première cellule corporelle. Cette unité est substantielle. Le corps n'est pas un accident, c'est pas l'âme qui vient dans une casserole. Et puis après, à la mort, ça s'évapore. C'est pas ça. C'est une unité substantielle. C'est par le corps que l'esprit est esprit. C'est dans le corps que l'esprit est esprit. Et c'est de manière vivante que cela se fait. Alors à ce moment-là, voyez bien, ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que dans la première cellule, l'âme spirituelle, c'est-à-dire la nôtre, vient dans le corps de manière parfaite. Elle informe le corps parfaitement, spirituellement aussi. Et non seulement elle le fait vivre, mais en plus spirituellement, l'esprit habite la cellule parfaitement. Vous voyez, à tel point donc peut-être même qu'elle le déborde, si je puis dire. Elle l'enveloppe, elle survient dedans, elle l'habite totalement. Le corps dans la première cellule, il est spirituel. Notre corps originel, c'est-à-dire notre première cellule, elle est spirituelle. Pourquoi? Parce que quand Dieu fait que j'existe, il fait l'unité entre l'âme spirituelle et mon corps, d'une part, mais en même temps, il me donne cette âme spirituelle. Donc, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. À cause de quoi? De cette raison, l'acte créateur de Dieu, forcément, il est présent, non seulement métaphysiquement, comme encore aujourd'hui pour nous, mais il est présent aussi dans son éternité vivante et créatrice, paternelle. Et c'est pourquoi cette unité, lorsqu'il est présent vitalement, comme le vin présent à l'eau, fait que le corps est totalement informé, déterminé, brûlé, actualisé. Et puis, du coup, si vous voulez, ça veut dire que vous êtes dans une espèce de rapt dans le premier instant, à l'intérieur de Dieu et Dieu à l'intérieur de vous, vitalement. C'est extraordinaire. On s'en rappelle pas. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que du coup, il ne va pas dire, alors du coup, on est dans un amour fou, comprenez? Mais en même temps, notre amour ne peut pas s'exercer, puisque si on n'a pas de concupiscible et pas d'irascible, on ne peut pas aimer. On ne peut pas non plus contempler Dieu, puisque si on n'a pas de sens externe, et, si on n'a pas de, et notamment pas de cerveau aussi pour le comprendre hein, et s'en rappeler, eh bien, on ne peut pas contempler, voir Dieu. Mais pourtant, vitalement, Dieu est présent, et le seul organe spirituel qui s'en rappelle, c'est la mémoire spirituelle. C'est la mémoire ontologique. C'est la liberté dans l'ordre du don. Qu'est-ce qui se passe pour la liberté dans l'ordre du don? Vous voyez, tout ce que je vous dis ici, ce n'est pas à partir de l'expérience, puisque on n'en fait plus l'expérience aujourd'hui. Mais c'est une conclusion de sagesse, puisque je sais, j'ai démontré l'existence de l'être premier, je sais que nécessairement l'être premier m'a donné une âme spirituelle au moment de la constitution première de l'être, et que par conséquent, le contact vital avec la sagesse créatrice de Dieu était un contact de vie à vie. Ça, c'est une conclusion de sagesse. Si vous voulez, c'est une déduction. Mais je n'en fais pas l'expérience. C'est pour ça que je vous ai dit, s'il vous plaît, faites-moi confiance. Nous faisons 20 ans de métaphysique, nous aboutissons à la démonstration de l'existence de l'être premier, nous redescendons dans une conclusion de sagesse, et je vous dis, c'est ça qui se passe. C'est démonstratif, ne dites pas, ne me faites pas dire que j'invente rien. Mais si vous voulez la démonstration de l'existence de l'être premier, vous avez des cassettes, très bien pour ça, c'est la retraite des jeunes à Saint-Marc en 1992, je crois. Bon, alors, c'est très bien, ça vous habituera à faire des inductions d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe dans l'instant suivant? Ah, non, bon, dans l'instant suivant, ce n'est plus la vie divine qui est le moteur, la locomotive principale de ma vie intérieure. C'est lui qui fait que j'existe, mais c'est ma vie qui reste toute seule. Il se sépare, quelque part. Alors ça, j'avais mis en bleu le point de vue de l'âme, donc je vais prendre en vert le point de vue du corps. J'ai toujours la même cellule. Et puis mon âme, du coup, quelque part, elle se retrouve... Vous voyez, elle se retrouve à l'intérieur, si je puis dire, du corps pour l'animer, mais il y a une espèce comme une espèce de rétractation, si je puis dire. L'âme spirituelle n'informe pas totalement au fond mon corps. Vous voyez? Il y a, si vous préférez, un décrochage. Au départ, dans le premier instant, le lien entre l'âme, la vie spirituel, et du coup ce lien avec l'amour et la lumière et la substance même de Dieu, et mon corps est total, et puis Dieu s'en va. Alors il y a comme c'est pas Dieu qui s'en va, Dieu s'en va pas, mais l'amour séparant de Dieu me donne quelque chose de plus, c'est l'instant même de ma création, il me donne quelque chose de plus, c'est ce décrochage, dans ce décrochage c'est la liberté du coup dans l'ordre du temps, parce que faisant ce décrochage, je suis poussé à aller vers lui, mais moi-même, par ma vie. Pas par la sienne, par ma vie. Donc il me donne la possibilité de répondre ce oui de manière libre et personnelle. Ce oui qui est le mien, qui est absolu, m'inscrit dans le cœur de Dieu, dans l'incréé et l'éternité, et dans le temps, et me lâche en même temps dans le temps, pour que ce soit mon, pour qu'il puisse s'accomplir personnellement par ma vie. C'est ça la liberté dans l'ordre du temps. Mais du coup, ce décrochage me met dans un état intérieur de ma première liberté. Ce qui montre bien que mon premier choix vient de là. Vous voyez? Alors, à partir de là, on va reprendre un petit peu tout ça. Alors, Petite parenthèse. Deuxièmement, je me retrouve dans le sein de ma mère, et puis il y a quelque chose dans le corps qui va déterminer le point de vue de l'âme, et c'est ce qu'on appelle le fameux, ça c'est une petite parenthèse chrétienne, n'est-ce pas, au niveau de la foi, et qui va me faire porter à travers l'héritage corporel, l'atavisme du péché originel. Et l'atavisme du péché originel va faire que finalement le décrochage sera encore plus grand. Non seulement le point de vue de l'esprit va plus informer totalement le corps, mais en plus c'est le point de vue de l'âme psychique qui va informer principalement le corps par rapport à l'esprit. C'est une des conséquences du péché originel. Donc le décrochage, donc il y a un deuxième décrochage qui lui vient du péché originel. C'est pour ça que je voudrais voir avec vous, mais je crois qu'on aura le temps que de voir les sept décrochages, les sept conséquences du décrochage qui implique le point de vue naturel, et il y a aussi des conséquences qui viennent du péché originel. Mais ça, ce n'est pas philosophique. Pourtant, j'en fais plus l'expérience que cela. Parce que c'est plus facile de voir les conséquences du péché originel que de voir les conséquences de des choix intimes qu'on a fait dans la première cellule. C'est intéressant, ça. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal. Il fallait y penser, poser cette question. Hein? Bon, nous, on y pense, et tant mieux. Alors, on y va. Alors, vous voyez ce décroche, c'est quand même très, très, très étonnant. Alors, d'abord, l'amour. Dans la première, l'amour, on est vraiment... Tout nous attire. Toute la vie divine attire. Notre âme s'engloutit dans cette vie divine. On reçoit notre âme, vous voyez, et on accueille Dieu. Vous voyez. Et en même temps, Dieu nous accueille dans sa vie intime de Père, Créateur, et en même temps, nous nous donnons totalement à lui. Le don et l'accueil sont parfaitement vécus, enfin, si je puis dire. Hein, vous voyez, le mystère de l'amour avec l'amour est totalement vécu. Le don, je me reçois de Dieu, je reçois Dieu, Dieu me reçoit, le don, je reçois mon âme, ma vie, j'accueille Dieu. Enfin, vraiment, le mystère, c'est pas le mystère, mais l'échange du don et de l'accueil sont absolument total. Alors, si bien que quand il y a Dieu, donc, enfin, la vie divine, Dieu reste là, mais il me donne cette liberté dans l'ordre du don, qu'il y a ce décrochage, il y a comme, voyez, quelque chose qui se fait et qui fait que l'échange du don et de l'accueil n'est plus aussi parfait, n'est plus aussi actuel. Lorsque vous êtes dans l'extase, que le don de vous-même à celui qui vous accueille est total, vous êtes totalement épanoui. Vous voyez, c'est ce qu'on disait, une des qualités qui apparaît, c'est la plénitude. Et dès que ce don et l'accueil, puisque je n'ai pas encore le concupiscible et l'irascible, je ne peux pas exercer mon amour encore. Il va falloir attendre le troisième mois dans l'embryon, point de vue embryonnaire, pour avoir la première expérience de la vie affective personnelle, dans l'exercice. Parce que mon corps n'est pas assez formé pour ça. Donc je suis dans l'impuissance de répondre, affectivement à ce point de vue extatique. Et je suis donc paralysé. Il y a un problème. Donc cette plénitude va se traduire, va succéder à ce sentiment de plénitude, à cet amour de plénitude, va succéder un vécu de repliement. L'inverse, si vous voulez, de la plénitude. Au lieu d'être dans une espèce d'extase, hop, je suis dans un phénomène de je suis tout seul avec moi-même du point de vue de l'amour. Il y a une espèce de rétractation. Donc le point de vue du don et de l'accueil, vous voyez, au point de vue humain, au point de vue spirituel, au point de vue de cette espèce de soif, d'extase, alors du coup c'est ça la première honte. C'est pas tout à fait la première honte, vous voyez bien, la honte c'est beaucoup plus du côté du péché originel. Mais c'est ça le premier, cette première odeur d'égoïsme qui est en moi. Je me sens égoïste, je me sens pas capable d'aimer, je vois que je n'aime pas. Je vois que ce n'est pas l'autre qui détermine tout en moi. Oui. Et ça, c'est cette première rupture. Alors du coup, je fais un choix. Parce que face à ça, face à ce premier repliement dans l'ordre de l'extase d'amour, je fais un choix. Qu'est-ce qui va se passer du côté de la liberté dans l'ordre du don? Parce que du point de vue de l'accueil, il y a un repliement. Alors du point de vue du don, je peux faire un choix. Alors là, il y a plusieurs choix possibles, mais le choix négatif, en tout cas, c'est que je peux faire donc le fameux choix du repli. Je me replie sur le lieu où je trouvais l'amour. Or, l'amour, je le trouvais au fond de ma vie intérieure. Donc, je me replie sur ma vie intérieure pour retrouver cet amour infini. Et c'est ce choix. Je peux faire ce choix de n'aimer que moi-même. Pour compenser cette absence, pour compenser, au fond, cette espèce de rétractation, vous voyez. Alors, ici, il y a un premier choix qui se fait, ou alors un choix d'attente. Et ça, en fait, c'est les deux. C'est un choix d'attente. C'est un choix profond, c'est de rester dans l'attente. Il y a l'amour et ses parents. Je reste dans l'attente, et cette attente, j'attends le moment où je pourrai à nouveau, grâce à mon corps qui va se modifier, qui va croître, qui va se spécifier, je vais pouvoir à nouveau me donner corps et âme, ce que je ne peux pas faire. Donc je peux faire un choix d'attente. Vous voyez comment l'amour et l'extase est lié à l'espérance. Et donc à la constance et à la persévérance. Mais ordinairement, le choix naturel qui se produit, c'est le choix du repli. Ce choix du repli, c'est un espèce de choix désespéré, vous comprenez. Quand vous êtes désespéré, vous êtes dans la bataille, hein, dans l'armée, hein, tu es sur le front, tu te bagarres partout à l'extérieur, l'ennemi t'attire, tu l'aimes. Tu aimes à te confronter à l'ennemi. Et puis quand tu es désespéré, hop, tu te barres hop, dans la tranchée, à la maison, repliement. C'est ça, vous comprenez. Pas vrai, c'est comme ça que ça se passe dans l'armée. Hein. Non, c'est l'espérance. L'amour fait que on est toujours là, en attente, ouvert, prêt. Vous voyez, disponible. Mais on peut faire ce choix. Et si on est, si dans la première cellule, on a été beaucoup plus sensible à l'aspect de l'amour, alors à ce moment-là, le choix du repli, notamment, bah, le choix premier du repli sera beaucoup plus intense dans mes nostalgies métaphysiques. Je ne vais pas réagir pareil. Je vais avoir plusieurs possibilités de choix, ce qu'on va essayer de les, on va essayer de les regarder toutes. Dans le point de vue de l'art, qu'est-ce qui domine? C'est le point de vue, non pas de Dieu Père qui m'aime, mais c'est Dieu Père qui est vraiment créateur, qui, à partir d'une matière, d'une disposition préexistante, vous voyez, à partir de la poussière du sol, hein, pour Adam, il crée Adam, il crée un homme. Créer un homme. Et c'est Père, c'est la vitalité créatrice de Dieu. Là, vous voyez bien que ça va rejoindre la première dimension de ma dimension géniale et créatrice, moi-même, qui, à partir d'une matière, je vais transformer ça en une belle sculpture. Vous voyez, une pâte à modeler extraordinaire, je vais faire une jolie déesse. Bon, très bien. Bon, la vitalité créatrice de Dieu. La vitalité créatrice de Dieu, elle est présente à fond ici. Et ma capacité de transformer la matière, elle est là à fond. Je découvre, oui, je peux choisir aussi quelque part que cette dimension-là, pour moi, d'ailleurs, dans la première cellule, je choisis tout. Mais quand je me retrouve tout seul, ah, qu'est-ce qui se passe? C'est pas que je suis en contact avec rien du tout, premièrement. Je suis également, c'est pareil, c'est le même schéma, hein, je suis paralysé, je ne suis pas en contact avec la matière. Vous savez très bien que la première cellule, elle n'est même pas dans la nidation. Donc elle n'est pas en contact, en relation physique avec la matrice maternelle. Elle est dans une espèce d'espace informe, une espèce de liquide qui fait qu'elle n'est pas en contact avec la mère. C'est seulement à la nidation qu'elle va être en contact avec la matrice maternelle. C'est quelqu'un qui me disait que pour elle, l'être est créé par Dieu et l'âme est créée par Dieu seulement quand l'œuf est en état de nidation, c'est-à-dire qu'il est en relation physique avec la mère. Parce que s'il n'y a pas de relation avec la mère, il n'y a pas de possibilité que ce soit une personne. Et puisqu'il n'y a pas de possibilité que ce soit une... Donc c'est ce qui fait l'être au fond, c'est la relation consciente, c'est la relation physique. C'est nuage de dire ça, mais c'est des théologiens de Paris qui disent ça. C'est un catholique, puis là, très bien placé en plus. Ils sont nuage, c'est tout. Je ne citerai pas c'est qui, parce qu'ils sont connus en plus. N'est-ce pas? Et non, c'est pas la relation, c'est l'être. La relation, c'est pas l'être. C'est pas parce que je suis en relation avec toi que j'existe. C'est pas à cause de ça. C'est pas à cause parce que je pense que j'existe. J'existe parce que j'existe. Et quand j'étais en première salut, j'existais. Je pensais pas. Alors vous comprenez que ici, je me retrouve dans un état de paralysie. Je n'ai plus aucun génie. Je n'ai plus aucune possibilité créatrice. Je suis face finalement à rien. Au point de vue artistique, je ne peux plus vivre. Alors c'est pourquoi je peux faire le fameux choix de mort. Vous savez, quand on parle du choix de mort dans la vie intra-utérine, ça vient de là. D'ailleurs, c'est pour ça que l'artiste a cette odeur de mort. Et qu'il va toujours dans le point de vue de l'insatisfaction, la folie. Son génie qui lui est propre, qui est à l'état de germe dans son oui, qui demeure dans la mémoire ontologique, tourne sur lui-même et c'est un état de folie. D'insatisfaction. Il ne peut pas créer. Vous comprenez ? C'est extraordinaire. Alors il y a ce choix, il y a quelque chose de sa vie créatrice. Moi, en tant que créateur, en tant qu'artiste, je ne peux pas vivre. Alors effectivement, je peux m'y résoudre et faire un choix de mort. Le fameux choix de mort que détectent les psychologues, les analystes du moi autonome, quand ils détectent un choix de mort, ça vient ici, cette dimension artistique. Vous voyez, ça, c'est sûr. Le choix du néant. C'est vrai. Dieu a créé à partir de rien. Alors, il s'en va, et je veux, ça c'est les deux possibilités, ça revient au même. Dieu a créé à partir de rien, et moi je me retrouve tout seul, et donc je veux retourner au néant pour être comme Dieu créateur. Voyez bien, mais c'est une nostalgie pure, c'est un choix qui est faux. C'est une tendance ontologique. Je peux, effectivement, arriver à faire ces choix. Bon, attention, je ne vous dis pas comment, parce que je vous le rappelle, on n'en fait pas l'expérience. Mais simplement, ici, je rentre dans la logique de sagesse qui fait qu'il y a l'absence de l'amour séparant. Ça va ? Maintenant, en troisième possibilité. Oui, dans le point de vue donc de l'intelligence, Dieu est lumière. Dieu est contemplation de la contemplation, et à travers lui, je peux voir, comprendre, me comprendre, comprendre comme Dieu comprend. La vie compréhensive de Dieu s'associe à ma vie, qui n'est pas capable de voir par elle-même. Il y a une expérience angélique, comprenez, dans la première cellule. Et pourtant, ça se passe dans mon corps, c'est en ce sens que ce n'est pas une expérience angélique. Mais aussitôt après, mon cerveau n'étant pas formé, mais même, je n'ai pas besoin du cerveau, mes sens externes, le sens du toucher ne fonctionnant pas, et j'ai également le même problème. Je me retrouve donc quelque part avec quelque chose qui fait que mon corps, à travers mon corps, le point de vue de la lumière, de la contemplation, ne passe plus. Mon corps devient opaque par rapport à ma vie contemplative. Ça, c'est clair. C'est parfaitement clair. Vous ne pouvez plus rien contempler. Ça, c'est sûr. Oh là là. Il y a une espèce de vide ici qui s'est créé. Vous voyez, il y a un décrochage, parce que j'aime bien le faire avec les mains, n'est-ce pas ? Il y a un décrochage qui s'est fait, et il y a un vide spirituel dans votre corps. Alors du coup, vous pouvez effectivement faire ce que j'appelle, mais appelez-le, je ne sais pas, vous pouvez aider moi, hein, parce que moi je veux bien, je vous assure que j'essaie de... j'invente pas, mais... Il y a quelque chose qui se passe forcément. Est-ce que je choisis d'être dans l'accueil ? Est-ce que je choisis d'être dans, de me réfugier, j'allais dire, dans la mémoire de Dieu ? Ou est-ce que je choisis de rentrer dans le vide qui s'opère par le point de vue de la lumière séparante ? Il y a un vide. Et il y a des gens qui choisissent de rentrer toujours dans les choses vides. Le choix du vide. Un monde qui est anti-religieux, c'est quelqu'un qui choisit le vide, il choisit la vanité, le néant, rien. Ils sont dans quelque chose, c'est le vide, c'est des êtres zéro. Nous, par exemple, c'est zéro. Les autres, ça va mieux. C'est pas, j'espère. Il ne faut pas dire que c'est les autres qui ne vont pas bien. Mais nous, au départ, vous comprenez, on peut faire un choix. Moi, j'appelle ça le choix du vide. Maintenant, vous pouvez l'appeler... Remarquez bien, je découvre avec avidité que, effectivement, avidité, c'est pas mal. Que, bon, que quelqu'un comme... décidément, j'aurais beaucoup cité c'est aujourd'hui. Quelqu'un comme MDP, il dit vide aussi, n'est-ce pas? Vide aussi. Oui, oui, c'est que... Il y a quelque chose de... Je fais un choix, je fais... Comme je ne peux pas contempler, comme je ne peux pas recevoir quelque chose de consistant, je reçois le vide. Et après, j'ai un problème, parce que du coup, si je continue comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, quand je peux contempler, 20 ans après, eh bien c'est très ennuyeux, parce que finalement, ma vie contemplative est vide. Et ceci est une conséquence, mais en même temps, ce vide est une chance. Parce que ce vide de Dieu m'oblige à avoir une réceptivité, quelque chose qui se creuse grâce au vide, une réceptivité, une avidité, un abîme de chercher la vérité. Donc si vous voulez, c'est tout va, ça peut être à la fois négatif et positif. Donc il y a choix de vide ou choix d'avidité, n'est-ce pas? Et c'est l'avidité, ou si vous préférez, le désir, qui fait la vie contemplative. Et ce désir devient libre et personnel grâce à ce décrochage. Et c'est pareil, évidemment, pour le point de vue du choix. Je peux choisir le repli ou l'attente. C'est pareil. Grâce à l'amour séparant, je suis dans un état d'attente, et cet état d'attente intensifie l'extase possible plus tard. Mais je peux choisir le repli. Je fais des choix. Vous voyez les 14 choix qu'on fait dans la liberté du temps. Et nous continuons comme ça. Pour le point de vue donc de l'aspect de l'union qu'il y a entre mon corps et la présence créatrice, l'omniprésence du Créateur. Le Créateur est présent à tout ce qui existe parce que tout ce qui existe dépend de son acte créateur. Tous les corps sont comme habités dans mon corps, à l'instant créateur de mon corps, dans l'animation spirituelle. C'est extraordinaire, ça. Et il y a un lien réel entre mon corps et tous les autres corps. C'est inouï. Quelque chose qu'on retrouve, si vous voulez, dans le panthéisme. Chez les francs-macs, etc. Les francs-macs sont très branchés. Hein, c'est des gens souvent angoissés, d'ailleurs, surtout les roses des chrétiens. Mais n'empêche que vous avez... Mais les autres aussi, ne vous inquiétez pas. Mais oui, à peine dépassés, c'est pour ça qu'ils sont très très liés. Ils rentrent dans l'initiation. Parce qu'au 33e degré, ben, tu peux passer au 32e. Au premier degré, tu peux passer au second. Et puis tu ne sais même pas ce qu'il y a en haut. Il faut bien que tu dépasses, mais tu ne sais pas de quoi. Tu ne sais pas. Voilà, tu vois, tu ne sais pas. C'est extraordinaire. Cette espèce de.
Bon, peu importe. Je vais tomber le front bac. Hop.
On en était ici, le corps. Le corps ici, c'est un petit cosmos. Il est en relation avec le grand cosmos, avec tout. Il en est responsable, il y a un aller-retour, grâce à la présence créatrice de Dieu vivante, n'est-ce pas? C'est une relation réelle, je suis en contact réel, de manière vitale, et mon corps y participe. Évidemment, il n'y participe que comme capteur, si je puis dire. Capteur-récepteur, c'est ça, c'est là que ça vient, ces termes, capteur, récepteur, diffuseur, c'est ça, espèce de centrale extraordinaire, c'est par rapport au corps originel, c'est pas, bien sûr, notre première cellule. Alors, aussitôt, je me retrouve tout seul avec mon corps, c'est tout. C'est frustrant. Je sais pas, c'est frustrant, il faut sentir. C'est frustrant, c'est pas seulement frustrant, vous voyez, moi j'ai dit c'est frustrant, vous voyez, c'est signe que j'ai peut-être pas eu une bonne réaction dans ce premier instant-là. Alors, là ici, qu'est-ce qui fait que le cosmos est actué dans l'unité, comme dit Aristote? C'est la lumière qui actue le diaphane cosmique. C'est la lumière qui actue le diaphane cosmique, vous savez. Et c'est ce que cherche, par exemple, l'hindouiste. L'hindouiste, il va chercher quoi? Il va chercher ce qui fait l'unité de tout le diaphane de l'univers, n'est-ce pas? Brahma, c'est ça? Alors, il va chercher ça. Il va chercher Isvara. Et cette lumière qui actue le diaphane de l'univers, et il va dire, ben c'est Dieu, quoi. Mais ce Dieu change quand même. Il va changer. C'est ça qui est extraordinaire dans l'hindouisme. Parce que, bon, mais il y a une idée dans cette histoire de changement, c'est qu'il y a une rémanence de Noé, puisque l'hindouisme, ça vient de Noé. Enfin, ça vient des petits-fils de Noé, plus exactement. Non, peu importe, je fais la parenthèse, vous lirez les recherches qu'on a faites sur cette question. Mais en tout cas, une chose est absolument sûre, c'est que la lumière qui actue tout le diaphane cosmique, ce n'est pas Dieu. Puisque Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Donc la lumière qui actue le diaphane cosmique, ce n'est pas Dieu. C'est une création de Dieu. C'est quelque chose de créé par Dieu. Mais vous comprenez bien que là, cette lumière qui actue le diaphane cosmique et la lumière vivante qui actue mon propre diaphane, c'est-à-dire mon âme. Le diaphane, c'est les espaces intérieurs, hein, si vous préférez. Les espaces diffusés, n'est-ce pas, et unificateurs. Bon, eh bien, sont ensemble, n'est-ce pas? Et si bien que quand je me retrouve dans ma première cellule, sans être dans l'unité avec la lumière qui actue le diaphane cosmique, on appelle ça le grand véhicule, hein, dans les traditions orientales. Bon, eh bien, je me retrouve tout seul, et je dis, donc, qu'est-ce qui se passe? Le choix de... Quel est le choix? C'est le choix de l'obscurité. Est-ce que ce ne serait pas ça, point d'interrogation, le problème de l'agoraphobie, par exemple. L'agoraphobie, la claustrophobie. Est-ce qu'il n'y a pas ici quelque chose de très très fondamental comme origine? Les gens qui ont peur d'être dans une cave. Regardez le gosse, comme c'est pénible pour lui d'être enfermé dans une cave. Ah, tu seras puni à la cave. Ça, c'est pas drôle. C'est pas la nuit. Mais je peux faire un choix. Il y en a qui trouvent ça très bien. Alors, ils vont dans les grottes. Ils mènent une vie grotesque. Parce que c'est tragique. C'est tragique de se trouver dans ce monde sans être uni, alors que c'est notre vocation, notre prédestination, sans être uni dans la lumière à toute la création. Donc, je peux faire effectivement ce choix de la nuit. Le corps. Vous voyez, c'est à cause de ça. Quelqu'un qui est dans l'angoisse, c'est quelqu'un qui est dans la nuit. Vous le savez bien, hein, le gosse qui crie, il ne sait pas où il est. Hein. Dès que vous allumez la lumière, c'est fini. Je veux dire, hein. C'est sûr. L'homme apporte la sécurité à la femme. Là aussi, c'est pareil. Pourquoi? Parce que dans l'échange du don et de l'accueil entre l'homme et la femme, l'homme apporte le point de vue de la lumière dans l'ordre de l'amour. Et la femme, elle apporte le point de vue de la profondeur dans l'ordre de l'amour. C'est pour ça que c'est l'homme qui apporte la sécurité dans la réciprocité des deux. C'est pas la femme. La femme ne sécurise pas l'homme dans l'amour. Jamais. C'est même le contraire. La femme, c'est une panique pour un homme. Si! Tandis que l'homme est une sécurité pour la femme. Mais la femme, par contre, est un appel, une révélation pour l'homme. Oh, vite! Alors, ensuite, je sais que tu te retrouves tout seul, tu te retrouves dans ton obscurité, tu te retrouves dans ton corps, tu te retrouves dans... Ou alors, tu peux retrouver, c'est un appel, en fait, à retrouver cette solidarité initiale avec toute la nature. Moi, je pense que la question de la vocation, elle est ici. Hein. Tu peux choisir ta vocation. Ta vocation, elle est liée à la création tout entière. Il y a un appel. Un appel concret, un appel audible, un appel de présence, un appel lumineux, mais qui est obscur pour moi. C'est ça, la vocation. Point d'interrogation. Là, j'avoue que je voudrais que vous réfléchissiez avec moi, parce que je réfléchis seulement depuis quelques mois seulement à ça. On essaie d'y penser, hein, avec nos apôtres, là. Toi, qu'est-ce que tu en penses, toi? Toi, qu'est-ce que tu en penses, là, ici? Choix de nuit, ouais. Toi qui as beaucoup réfléchi, non? Tu vois pas? Non? Non, mais n'hésite pas, faut pas hésiter. Je sais pas si on a... Qu'est-ce qu'on avait dit Je veux pas me... Alors, voyons maintenant le point de vue de la vie. Alors, voyez bien que du point de vue de la vie, mon intelligence est complètement contemplative, elle accueille complètement la vérité telle qu'elle est, elle est complètement prise par l'amour, le point de vue extatique n'est pas parfaitement présent, il y a une soif, je sais que j'ai une soif infinie de contempler, une soif infinie de vérité, une soif infinie d'amour, ça c'est sûr. Puis d'un seul coup, ma mémoire ontologique fonctionne encore. Ma mémoire ontologique fonctionne encore. Voilà pour les trois puissances de l'âme. La mémoire ontologique, elle fonctionne encore après la rétractation dans l'amour séparant. Mais je ne peux pas avoir un exercice dans la première cellule d'amour. Impossible. Je ne peux pas avoir un exercice d'intelligence contemplative. Impossible. La seule activité d'exercice que je puis avoir, c'est un exercice passif. C'est l'exercice passif de la mémoire ontologique. Dans ma mémoire génétique, j'ai un organe corporel qui permet à ma puissance de liberté dans l'ordre du don d'exister. C'est pour ça d'ailleurs que je peux faire tous ces choix, qui sont des choix fondamentaux, qui sont des choix directionnels, qui sont des choix positifs. Ne voyez pas que c'est des choix négatifs tout ça. C'est des choix positifs, qui sont fondamentalement positifs. D'accord ? Alors, il y a ici, où est-ce qu'on en était donc ? Oui. Alors, il y a cette présence ici de mon intelligence et de ma volonté. Et d'un seul coup, il y a une impossibilité d'exercice, humainement parlant, dans ma liberté dans l'ordre humain et personnel, du point de vue de l'intelligence, du point de vue de la volonté. Vous voyez le problème ? Bon, d'où d'ailleurs ce que nous avons vu, cette capacité, je me retrouve face à cette capacité infinie de contempler, soit d'aimer, je me retrouve seul intellectuellement. Paralysé, pareil, c'est pareil. Il y a un isolement par rapport à celui que je veux contempler, par rapport à l'autre que je veux aimer. Bon, et c'est à cause de ça. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, et bien là, je ne sais pas. J'avoue que je bloque ici. J'avoue qu'ici, je ne sais pas trop. C'est là que joue la liberté sur le plan spirituel d'une manière la plus forte, à mon avis, quand même. Mais vous voyez que le problème, si vous comprenez ce que j'essaye de chercher avec vous, et si vous arrivez à m'aider, je suis très content, mais il me semble que ce qui se passe ici, dans la séparation, dans l'amour séparant de Dieu, ou la présence séparée de Dieu, du point de vue vital, ce qui se passe, c'est qu'ici, je peux choisir, je peux re-choisir la vie divine, où je peux me réfugier dans le point de vue d'une vie humaine sans vie divine. Je me retrouve, et d'ailleurs c'est toujours pareil, hein. Vous voyez bien que c'est exactement le même schéma. Alors, est-ce que ici, les psychologues du moi autonome, ils disent choix de vie. Je peux faire un choix de vie, je peux faire un choix de mort, vous voyez. Mais attention, c'est un choix de vie divine ou un choix de vie humaine. Les deux. Est-ce que je vais me réfugier dans le point de vue de la mémoire ontologique ? Est-ce que je vais me réfugier dans le point de vue de la mémoire ontologique, qui est pour moi le seul point de vue du choix de la vie humaine qui me reste ? Et est-ce que je vais y rester tout le temps ? Ça va donner le samadhi sans racine. Hein ? Toute la mystique orientale, c'est ça. C'est de rentrer et finalement dans un choix de vie humaine, et puis c'est tout. Et je n'adorerai pas. Mais attention, grâce à ce choix de vie humaine, je reste en contact avec mon origine, donc mon origine, dans ma mémoire ontologique, dans mon corps. Et grâce à quoi, dès que je vais pouvoir vivre spirituellement, du point de vue de l'intelligence et du point de vue de l'amour, je vais me redonner dans la vie humaine, et à travers cette vie humaine, à la vie divine, mais dans le don, dans la liberté du don, mais cette fois-ci de manière active. Parce qu'ici, dans la mémoire ontologique, c'est de manière passive. Vous savez que quand vous rentrez dans le point de vue de la réalisation du samadhi sans racine, c'est purement passif. Vous êtes en état de passivité absolue. Le vide total. Alors vous êtes pur, et ça y est, vous atteignez à ce moment-là l'illumination, comme ils disent, c'est-à-dire l'état. Un état analogue, métapsychiquement, à celui que vous avez dans la première cellule, et le résultat, c'est que vous devez abandonner Ishvara, le créateur, vous devez abandonner l'amour, vous devez abandonner la sagesse, hein, sinon vous ne rentrez pas dans le samadhi sans racine. Est-ce que le choix du samadhi sans racine, le choix d'une mystique orientale, est-ce qu'il ne s'enracine pas dans un choix de vie humaine pure, ou un refus, ou un choix de ne pas vivre la vie divine ? Point d'interrogation. Voyez bien, ici, il y a quelque chose de très fondamental qui est très important, à mon avis, à comprendre. Mais le choix de vie, voyez, a quelque chose de très positif. Il va s'investir dans la subjectivité, ou bien alors dans le point de vue divin, dans le point de vue de l'éternité vivante de Dieu. À ce moment-là, je peux me retrouver et vivre passivement dans ma mémoire ontologique de ce corps originel, mais à partir de là, est-ce que je vais aller à la découverte de mon corps spirituel, c'est-à-dire mon corps qui est en Dieu, n'est-ce pas, actuel, qui est dans l'éternité, hein, ou bien alors, est-ce que je vais rester au niveau de la mémoire ontologique, et donc je vais refuser la contemplation de la vérité, notamment du Christ, hein, nous a dit, et de l'amour, notamment donc du feu qui brûle le cœur de Jésus dans la résurrection. À ce moment-là, je ne trouverai jamais mon corps spirituel. Est-ce qu'il n'y a pas ici quelque chose de très important? Le métaxu entre les deux, c'est le point de vue de la grâce. Puisque la grâce, c'est la vie divine dans notre âme. Mais ça, c'est une petite parenthèse. Si je vis de Dieu sans la grâce sanctifiante, je tombe dans un choix de l'homme qui refuse de vivre de Dieu vérité incarnée. D'accord? Voyez bien? Et je tâtonne, hein, je dis avec crainte et tremblement. Donc si vous voyez, on continue, il me reste encore deux colonnes. Vous avez ici, où est-ce qu'on en est là? Dans la coopération. Alors, dans la coopération, ici, c'est ce que je vous disais, il y a un phénomène de dépendance et un phénomène à la fois de spontanéité extraordinaire. Peut-être quelque chose de semblable, vous voyez, à ce que vous avez quand vous naissez. Quand vous naissez, vous êtes dans les bras de votre mère, vous êtes spontané quelque part. Vous dépendez d'elle, mais vous êtes spontané. C'est après qu'il va y avoir ces moments de contradiction entre la dépendance vis-à-vis de votre époux, par exemple, si vous êtes marié, et puis cette spontanéité avec lui. Il faut quand même que, vous voyez bien que c'est quand même quelque chose de différent que l'amour. L'amour, c'est lui qui vous attire, mais dans la coopération, vous dépendez de lui, vous lui obéissez. Vous voyez? Si vous obéissez pas à votre conjoint, c'est pas la peine de vous marier. Vous savez, et il faut pas dire, c'est l'autre qui doit obéir, ou c'est moi qui dois obéir, on doit obéir moitié-moitié. Non, non, chacun doit obéir à 100%. Dans la coopération, c'est un petit peu comme ça, il faut faire attention à ce que... Alors ici, je suis dans un phénomène de dépendance spontanéité vitale. Ma dépendance vis-à-vis de la paternité, vis-à-vis de l'unité avec celui qui fait l'unité de tous les vivants, de toute l'humanité, de toute la famille humaine. Alors, spontanément, vous voyez, spontanément, je suis présent à tous les hommes. Et puis en même temps, je dépends d'eux. Et en même temps, tout ça, c'est pas contradictoire. C'est là que se réalise, là, il y a une présence au corps mystique qui est très extraordinaire. Le corps mystique, c'est toute l'humanité qui fait un seul corps, vitalement. N'est-ce pas? C'est ça le corps mystique. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? D'un seul coup, je me trouve toujours pareil. Je ne peux plus coopérer avec ma mère. Je ne coopère plus avec ma mère, je ne coopère plus avec... Il y a une espèce de contact quand même, il y a une espèce d'aspect familial qui n'y est plus, que je retrouve grâce à Dieu vers le troisième mois, quand je commence à pouvoir bouger. Parce que si le père est sur le lit à droite, et il parle, je me mets du côté du père. S'il sort du lit, il va de l'autre côté, à gauche de la mère, tu entends sa voix, tu en bruyant. C'est des trucs marrants qu'on fait, que les mères de famille et pères de famille font l'expérience de ça, c'est très, très amusant, il faut leur expliquer qu'il faut faire ça, c'est très rigolo. Le gosse, là, quand il peut bouger, il va du côté de la voix du père. Et si c'est la voix de la femme de ménage, il ne bouge pas. Hein. C'est extraordinaire, l'aspect familial qui apparaît. Hein, il apparaît au bout d'un certain temps. Mais dans la première cellule, impossible, vous voyez. Mais si cette espèce de hâte d'aller vers le père, le noyau familial, vous voyez, elle vient d'ici, de cette première séparation. Ah, oui, alors... On est parti d'un tout, là. C'est lié à la paternité, tout ça. Parce que c'est Dieu, mon père, qui est parti. Je suis dans la mer. Et je veux retrouver le père. Oh. C'est la question de la paternité, de la filiation. Alors, Donc, ici, le soi, pardon, c'est des soi. Le soi du père, le soi d'être père, le soi d'être en lien avec son père, le soi d'être fils. Mais cette difficulté qu'on a à être fils de Dieu, fils de quelqu'un, la difficulté qu'on a à être disciple, la difficulté énorme qu'on a à être engendré par quelqu'un, la difficulté qu'on a à être engendré par la grâce de Dieu, par l'Église de Dieu, la difficulté qu'on a à être engendré par la paternité du Saint-Père, par exemple. Vous voyez ? Je peux faire un choix d'être fils, le choix du Père. Il est ici. Il est ici. Une société qui refuse l'autorité est morte. Et une société qui confond autorité et pouvoir est morte aussi, parce que le Père n'a aucun pouvoir, mais il a autorité. Et l'autorité dépend de l'amour et de la fécondité du Père. Tandis que le pouvoir dépend de la force. Alors, si vous ne savez pas faire la différence entre autorité et pouvoir dans l'éducation, c'est dramatique. Ça veut dire que vous n'êtes plus père. Ensuite, vous avez l'aspect du point de vue de la vie, ici. Le dernier aspect de l'adoration, ici, c'est la vie et l'être. Vous voyez, ici, c'était le père et le fils. Dieu le père et vous fils, vous étiez un. Dépendance, spontanéité vitale. Spontanéité vitale, dépendance. Bon, dans le point de vue de l'adoration, c'est le point de vue de l'être et de la vie qui sont ensemble une seule chose, n'est-ce pas? Il y a une seule détermination, elle vient totalement, toute entière de Dieu. Bon, pour l'amour, c'était le don et l'accueil. Pour l'art, c'était le créateur, la créature. La créateur de Dieu, le génie de la créature. Vous voyez, c'est les deux choses qui sont un et puis hop, qui sont... C'est ce qui permet cette séparation, vous voyez, cet amour séparant, permet à la créature d'être elle-même créature, par elle-même, n'est-ce pas? Elle permet à l'accueil d'amour d'être par lui-même accueil d'amour, n'est-ce pas? Sans être déterminé par le don. Elle permet à l'être d'être lui-même, pardon, à la vie d'être elle-même, indépendamment de l'être. Vous voyez bien? Alors, oui, pour ce qui est de c'était le corps et le cosmos. Votre corps et le cosmos étaient ensemble, pour le point de vue de la vie. Bon, c'était la vie divine et la vie humaine. Voilà. Très bien. Alors, pour le dernier, c'est quoi? C'est l'être et la vie. Votre être déterminé par la créature de Dieu, et votre vie est déterminée par la donation vitale de l'âme spirituelle par votre Père. Les deux, vous êtes dans un état de dépendance et d'accueil des deux. Et d'un seul coup, c'est seulement votre être qui dépend de la créature de Dieu et votre vie qui dépend de vous. Vous voyez? D'accord? Vous voyez, voyez la différence de l'instant premier que vous portez encore au centre de chacune de vos cellules dans votre corps actuel, et puis le second moment, qui est un moment, pas de panique, mais c'est un moment quand même existentiel très important. Alors c'est à cause de ça que votre vie, elle est laissée à elle-même, et du coup, vous pouvez choisir le choix. C'est là que vous choisissez l'absolu. Pour vous, la vie était un absolu, puisque l'absolu de vital que vous avez expérimenté ou par lequel vous avez été impressionné dans la première cellule, vous ne l'avez plus. Donc vous pouvez le re-choisir, cet absolu. L'existentialisme de Sartre, c'est le choix d'un absolu, c'est dire la liberté, c'est absolu. Je suis libre. Ça, c'est au-dessus de tout. Je choisis l'absolu. Et je peux faire à travers cet absolu, lorsque mon intelligence peut être informée par la révélation ou par l'intelligence, par la sagesse parce que je ne suis pas paresseux, etc., je vais devoir comprendre que l'absolu, c'est Dieu. Mais c'est grâce à cette rétractation que je vais pouvoir choisir l'absolu. Donc vous comprenez que cette rétractation, elle est voulue par le Créateur pour permettre la liberté du don d'être personnel dans les sept dimensions que nous voyons ici. Ça va ? Alors évidemment, vous allez me dire, et maintenant je termine par là parce que ça a sonné, vous allez me dire, on est bien avancé avec ça. Bon, il faudrait faire évidemment la synthèse de tout ça. Mais sachez bien quand même une chose. Ce que je vous propose, c'est de réfléchir jusqu'à Noël et en 1996, si ce n'est pas encore la guerre civile, qu'on peut se retrouver. On verra ça. Mais à ce moment-là, ce que je vous propose, moi, c'est de regarder qu'est-ce qui domine chez vous. Vous reprenez ce tableau. Vous regardez les qualités affectives, voyez, les qualités dominantes, les qualités finales. Vous essayez de regarder quelle est la dimension en vous, d'après ce que nous avons vu ici, qui domine lorsque vous êtes en présence de cette quête de votre origine ontologique, de cette transcendance de Dieu, de votre être, de l'être des choses, de la recherche de la vérité, de l'appel à l'extase, de l'appel à l'éternité, à l'unité cosmique dans l'au-delà du cosmos. Voyez ? Parce que vous êtes en présence de tout ça. Qu'est-ce qui domine en vous ? Ou regardez-le sur les autres. Qu'est-ce qui domine ? Est-ce qu'il rayonne, ce mec ? Est-ce que c'est la plénitude? Est-ce que c'est, voyez, est-ce que c'est le silence? S'habituer à percevoir le pli principal de notre humanité. À partir de quoi vous pouvez faire un acte de mémoire ontologique pour voir quels sont vos choix principaux. Parce qu'il est bien évident que dans cette première rétractation, il y en a qui vont choisir avant tout, je ne sais pas moi, avant tout l'absolu. Avant tout l'absolu. Dès le départ. Et du coup, ça va donner des gens qui sont finalement toute leur vie, quelque part, le pli dominant, ce sera le pli religieux. Attention, ce n'est pas chrétien, ça. Religieux. C'est naturel, ce n'est pas surnaturel. Chrétien, c'est surnaturel. Il faut sentir ça. Est-ce qu'il y a un choix de mort? Est-ce qu'il y a un choix de vie? Est-ce qu'il y a un choix d'être toujours dans l'obscurité? Est-ce qu'il y a, etc. Vous voyez bien, un des aspects le plus intéressant, c'est contemplatif, c'est le point de vue du désir. S'intéresse de l'enfant Jésus, c'est là. S'intéresse de l'enfant Jésus. Il faudrait regarder les saints, si vous voulez. Ce serait très amusant. Je vais regarder Saint François d'Assise. Bon, bah, ça c'est clair comme tout. Saint François d'Assise, où est-ce que je l'ai? Où est-ce que je l'ai mis? Voilà. Saint François d'Assise, c'est ici, là. C'est là. Parce que vous voyez, évidemment, c'est le point de vue de la création, quoi, le point de vue du corps cosmique, tout ça. Il y avait quelque chose de très fort. Il y a ici. Qu'est-ce que. Ah oui. Je ne sais pas, moi. Moi, je m'y perds dans tout ça. Saint-Maximilien-Marie Kolb. C'est les relations, l'Immaculée Conception, la paternité, la maternité, l'Immaculée Conception. Tout ça, c'est très, 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 très miséricorde, paternité, mariale. C'est très marial, le Père Kolb. Marie, c'est ce qui fait l'unité du corps christique. Vous savez bien, c'est Marie qui fait l'unité dans l'Église. C'est Marie, sa femme, qui fait l'unité de toute l'humanité. C'est évident. Là, c'est sûr que chez Maximilien Kolb, il y a un truc, sa dimension sociale, elle est... Sa dimension familiale, sa dimension mariale, sa dimension de paternité, de filiation. Il a besoin d'un père, d'une mère. Incroyable. C'est parce qu'il est tellement lié à l'Immaculée, vous voyez ça. Bon. Etc. Alors, ce qu'il faut que vous regardiez, c'est qui domine donc dans chacun d'entre vous, et que vous arriviez petit à petit à percevoir, à travers ça, quels sont les plis de vos premiers choix. Deuxièmement, dans un deuxième moment, n'oubliez pas qu'il y a, à part tous ces plis étant des choix qui correspondent à la liberté du don, voilà, ça c'est la manière de parler du Saint-Père, ça c'est hyper positif, mais comme le péché originel arrive là-dessus,
qui me met sous l'influence de la tentation, de la concupiscence, de l'orgueil et de la vanité. Voilà les trois séquelles du péché originel. Ces trois séquelles du péché originel vont engendrer des négativités dans ces choix possibles, n'est-ce pas? Et ces tendances à la négativité viennent du péché originel. Et ils correspondent à des choix de notre liberté personnelle. C'est pourquoi nous avons péché personnellement. Le péché originel vient s'inscrire dans mon choix individuel dès le premier instant. Et c'est moi, c'est mon choix, libre. C'est dans la liberté du don que, plutôt que de rentrer dans le désir et l'avidité, je rentre dans le vide. Plutôt que de rentrer dans l'attente, je ne sais pas où c'était, je rentre dans le point de vue du repli. Ça vient du péché originel. Et il y a du plus et du moins. Et ça vient de ma liberté. Et c'est pourquoi. Et nous sommes tous, il y a du plus et du moins hein, dans notre complicité, coopération avec l'atavisme du péché originel. Et c'est pourquoi nous sommes vraiment responsables et qu'il faut le baptême pour nous laver du péché originel. Vous voyez, c'est un très gros problème, c'est de savoir comment le péché originel fait que nous sommes vraiment personnellement responsables. Mais ce que je voudrais avec vous, c'est que vous voyez que, du coup, il y a un gros problème. C'est qu'il y a une angoisse mystique et une angoisse métaphysique. Et c'est ces deux angoisses qui expliquent pourquoi Heidegger ne veut pas revenir à la réalité pour faire l'induction à partir de l'être et du jugement d'existence. Il veut rester dans l'attente de la révélation de l'être par lui-même. Mais l'être ne révèle rien par lui-même quand il est seul. C'est pourquoi nous reverrons, je ne reviendrai pas là-dessus, sauf si vous avez des questions au mois de janvier. Je ne reviendrai pas là-dessus, je dis ça simplement parce que comme un schème de réflexion, de recherche et de travail, parce qu'il faut beaucoup réfléchir à ça, je tiens à vous dire que personne n'a jamais parlé de ça. C'est-à-dire, je fais enquête personnellement, personne n'a jamais parlé de ça. De ce que je viens de faire avec vous. Là. Personne. Mais je ne l'affirme pas. Je dis, il faut réfléchir à ça, il faut chercher la vérité par rapport à ça, et il faut se demander s'il n'y a pas ici quelque chose de très important pour nous. Vous voyez ? C'est quelque chose de très 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 important. Parce que ça conditionne quelque part les retrouvailles avec notre corps originel. Je ne crois pas qu'il soit possible de trouver notre corps spirituel si on ne se réconcilie pas avec son corps originel. Et ceci implique un exercice de la mémoire ontologique et qu'on n'ait pas peur de se trouver dans son corps, dans le point de vue fondamental du corps, tel qu'il peut être indéterminé de l'intérieur par notre liberté spirituelle. Et c'est pourquoi cette réflexion est si importante, parce que comme dit saint Augustin, c'est par l'intelligence et l'amour de Dieu que je peux retrouver l'état dans mon état originel, dans la memoria dei et dans mon corps. Et de là, dans le Christ, retrouver mon corps spirituel. C'est pourquoi c'est si important aujourd'hui, puisque l'Église de Dieu, mais ça c'est une parenthèse autre, parce que ce n'est pas philosophique, l'Église, le pape nous enseigne, l'être aux familles, qu'il faut passer du corps psychique au corps spirituel. C'est quand même clair, le pape le dit, en avant. Alors, si vous dites, moi, corps spirituel, j'ai jamais vu où était mon corps spirituel, je ne sais même pas, corps psychique, je ne sais pas ce que c'est. Bon, c'est embêtant, hein, c'est très ennuyeux. Pourquoi? Parce qu'il faut que le corps mystique de l'Église ne soit pas seulement un corps mystique évaporé, éthérique, symbolique. Il faut que ce soit un corps mystique qui aille jusqu'au corps, jusqu'au point de vue de la matière, comprenez? Sinon, pas de Jérusalem céleste, Saint-Saint. Et donc, la mission de l'Église est foutue. Or, la mission de l'Église ne sera jamais foutue. La preuve, c'est qu'on commence. Bon, alors voilà. Et la prochaine fois, nous reviendrons au jugement d'existence, nous irons au-delà de l'interrogation, et à partir de ce point de vue de l'être, on va revenir au jugement d'existence et nous allons faire la première induction, l'induction de la substance.